Vendredi, on est 19h et c'est donc Frisson en direct sur Canal B. Comment ça va, Ludo ?
Ça va super bien, bonsoir à tous.
Salut Vivian.
Salut.
Dis donc Vivian, t'aurais pas des nouvelles de notre conseiller spécial Renaud ?
Oui. On a une bonne nouvelle à propos de l'invité de deux des dernières émissions, Pierre, donc qui venait, donc militant de la CGT Éducation. Qui avait dénoncé les associations d'extrême droite qui diffamaient les enseignants pour lutter contre l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Et il avait dit que ces associations d'extrême droite, en répandant des rumeurs, mettaient en danger les enseignants. Ces associations, ou du moins l'une d'elles, avaient porté plainte et on a appris hier qu'il était relaxé.
Ben voilà, écoute, Pierre est libre.
Pierre est libre.
Voilà. Et je parlais du conseiller spécial Renaud, puisqu'il était venu dernièrement à l'occasion de notre spécial Renaud, où on avait sondé le chanteur énervant jusqu'au fond de ses entrailles, et c'était pas jojo. Donc aujourd'hui, on est un peu intimidé, puisque on reçoit pour la deuxième fois une candidate à l'élection municipale de Rennes.
On aura couvert un panel politique très large.
Voilà, bonsoir Marie Mesmer.
Bonsoir à vous trois, merci, faut pas être intimidée du tout, moi je ne suis pas.
Non mais je pense qu'on va se détendre rapidement. Comme c'est la tradition à Frisson, on démarre parce que nous appelons une vieillerie et c'est le choix de notre invité comme il est d'usage ici. Et je vous dis à tout de suite.
Le temps des cerises et guérossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
C'était donc le temps des cerises, c'était le choix de Marie Mesmer, donc c'est un chant de la commune de Paris. Tu peux peut-être nous en dire plus, qui t'a motivé à le passer, et ton rapport à cette chanson?
Déjà elle est magnifique, il y a un côté un peu nostalgique, douce France comme on aime, et puis aussi dans le contexte et actuellement je trouve qu'elle est très très parlante, parce que quand on commence à penser une ville, une commune, dans ces élections. Moi, c'est ça qui m'a entraînée dans ces élections, c'est l'espèce de plaisir que ça peut être de repenser la ville, son lien avec les habitants, les ambitions qu'on peut avoir, qu'est-ce que c'est être ensemble dans une commune. Et en fait, donc, comme tu disais, c'est la commune de Paris. Et ce qui est assez marquant dans la commune de Paris, c'était un moment révolutionnaire, et qu'en 72 jours, les habitants, ils ont mis en place tout un tas de choses, comme la révocabilité des élus, le droit au travail, avoir le droit au travail. Ils ont mis les cantines gratuites, la séparation des églises et de l'État, donc là c'est plus dans le contexte, mais heureusement. Et puis il y avait aussi à ce moment-là les réquisitions des logements vacants. Donc tout ça c'est aussi un peu inspirant d'écouter ce chant et de penser à ce contexte pour nous aussi nous dire qu'on peut, comme ces habitants-là à l'époque, comme les communards, penser notre ville, nos droits et nos futurs droits et tout ce qu'on peut créer et inventer, qui finalement n'est pas fou et qui était déjà de contexte en 1871, parce que là aujourd'hui on reparle de la réquisition des bâtiments par exemple, lié au fait qu'à Rennes on a plein de personnes qui vivent à la rue, on reparle de la cantine gratuite parce que lié au fait à la crise sociale et au droit à une alimentation digne, on parle de la révocabilité des élus parce qu'en fait il faut avoir confiance en l'acte démocratique et les personnes qui sont là pour nous représenter. Et donc moi je crois vraiment qu'un élu il n'est pas sur son siège à vie et qu'il est là par le peuple, pour le peuple, donc il peut pouvoir être révoqué. Enfin voilà, tout ça c'est très inspirant.
Et justement, enfin, tu as évoqué là plusieurs fois la question du logement, c'est quand même un grand sujet à Rennes. On sait que dans le parc social, il y a des délais d'attente qui sont énormes. Maintenant, on en est quand même à 4 ans pour les personnes qui sont considérées comme prioritaires, que ce soit les SDF ou les gens qui, par exemple, ne peuvent plus habiter leur logement pour des raisons médicales, par exemple des gens qui ont des difficultés pour monter un escalier et qui habitent à un étage sans ascenseur. Ces personnes-là doivent quand même attendre 1 an et demi. Les personnes qui sont prioritaires, qui ne peuvent plus habiter leur logement, il y a quand même aussi un grand nombre de logements insalubres. Dans le parc privé aussi, les loyers ont énormément augmenté. Quel est ton regard là-dessus et évidemment les propositions concrètes que tu peux avoir en tant que tête de liste de la France Insoumise pour les municipales?
Mais ça, c'est un sujet criant dans les grandes villes comme Rennes, mais aussi partout. Et donc moi, en tant que députée, d'ailleurs, dans mon cadre de travail politique, je suis hyper sollicitée par de nombreux habitants et habitantes pour toutes les raisons que tu viens d'indiquer, à la fois des logements insalubres, des logements qui ne sont pas du tout reconstruits alors qu'il y a énormément de dégâts après des tempêtes, des choses comme ça, c'est arrivé. Et donc c'est un gros pan de mon travail, c'est de faire des courriers pour le droit au logement, pour des bailleurs, par exemple là, je pense à un couple qui avait un petit studio, ils ont eu 2 enfants entre temps mais ils sont restés dans le petit studio parce qu'il n'y avait pas d'autres logements. Donc, à la fois, je travaille du coup à l'Assemblée nationale sur tout un tas de lois pour justement essayer de remédier à cette crise du logement qui n'est pas une crise. C'est vraiment un problème politique parce qu'aujourd'hui en France, il y a 3,5% de personnes qui détiennent 50% du parc locatif. Donc, c'est eux qui font qui jouent sur la spéculation, sur le prix, sur la saturation du marché. Parce qu'en fait, plus le marché est saturé, plus du coup, ils peuvent spéculer, c'est-à-dire augmenter les prix ou laisser des logements vides sciemment pour que. Bah, du coup, il y a une crise et une demande tellement forte que du coup, ils augmentent les prix, alors qu'au même moment, la population s'appauvrit dans sa grande majorité à cause des politiques macronistes. Donc tout ça, c'est une visée politique, celle du privé, celle de l'argent, celle de personnes qui ont des montagnes dans leur poche et qui, du coup, se font cet argent sur la misère sociale. Donc, à l'échelle de la ville, on peut aussi faire des choses. Par exemple, la commune de Vienne, elle a 60% de parcs de logements qui sont du parc public. C'est-à-dire que du coup, ils jouent sur le prix. D'ailleurs, à peu près tous les ménages peuvent rentrer dans le parc public parce que c'est le critère pour pouvoir y rentrer, c'est en dessous de 5 000 € mensuels. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent y prétendre. Et du coup, contrairement à nous, eux, leur loyer, ils représentent que seulement 8% de leur charge financière par mois. Donc, en fait, ils peuvent aussi utiliser l'argent pour faire tout ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire accéder à la culture, sortir, les loisirs, etc. Donc, nous, ce qu'on veut dans notre programme Insoumis dans la ville de Rennes, c'est à la fois créer du logement, avoir 40% de logements du coup public pour justement baisser la saturation du privé.
Il y a combien à Rennes en logement public?
Actuellement, je ne l'ai pas par cœur, je crois que c'est 20%, 25%. Mais en tout cas, on n'est pas à 40%. Et donc, nous, on vise à aller je crois que c'est ça, le double. Et donc, l'encadrement des loyers qui se passe en plein de ville, il n'est pas encore à Rennes. Parce qu'en fait, c'est l'État qui doit valider le dossier. Donc, c'est aussi faire de lobbying, des pressions intenses sur l'État pour qu'il valide la mise en œuvre de l'encadrement des loyers, vu la crise sociale qu'on vit aujourd'hui à Rennes. Et pour ça, on a aussi un outil très pratico-pratique, c'est mettre en place une brigade anti-mal logement. Donc, le mot brigade, on l'a choisi sciemment parce que c'est la.
Je vous ai entendu en parler justement. Ouais. Est-ce que tu peux préciser en termes d'effectifs, de moyens, etc. Il y a quand même plus de 200 000 habitants. Donc,
oui, on l'envisage entre 10 et 15 agents. Okay. Qui vont du coup pouvoir accompagner les habitants et habitantes dans des dossiers juridiques, ils vont se déplacer dans les logements avec les habitants pour constater en fait le mal logement, donc les passoires thermiques, etc. Faire les dossiers sur les propriétaires. Il y a aussi beaucoup de... Même si le loyer n'est pas encadré ici, il doit quand même respecter certaines règles et donc pouvoir aussi dire aux habitants et habitantes que leur droit, c'est d'aller exiger un loyer décent à leur propriétaire en fonction de ces règles-là. Et aussi, il peut lutter sur quelque chose qui est vraiment infâme, dont d'ailleurs un chiffre et un rapport est sorti cette semaine, sur les discriminations à l'entrée au logement. On vient d'apprendre par le collectif SOS Racisme que du coup, il y a la moitié, je crois, des agences de location qui, du coup, acceptent sciemment de mettre de côté des dossiers parce que les propriétaires demandent à ce que les habitants, les futurs locataires, n'aient pas de nom à connotation, j'imagine en tout cas surtout
européenne, quoi.
Oui, exactement. Donc ça aussi, on a un bureau anti-discrimination, mais la brigade anti-mal-logement, elle aura vraiment un travail intense là-dessus et aussi à faire un état des lieux des bâtiments publics qu'on peut réquisitionner ou des logements vacants à Rennes. Voilà. Donc c'est tout un projet politique.
Et sur la question des transports, par exemple, pour se rendre de son logement indécent à son travail indécent.
Est-ce qu'on peut avoir un transport décent quand même?
Oui.
Je lisais dans les premières mesures qui ont été annoncées donc par la France Insoumise, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Je crois que c'était la première mesure même. Donc, immédiatement, moi j'étais vexé puisque j'ai 49.
T'as 28 ans, c'est con.
Ouais. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas étendre à tout le monde? J'ai compté qu'il y avait 44 villes en France qui appliquaient la gratuité totale dans les transports, et y compris d'ailleurs Morlaix. Je cite Morlaix parce que c'est délégué à la même entreprise qu'à Rennes, Keolis. Pourquoi pas plus?
Si, nous c'est plus aussi, c'est juste que c'est la mesure immédiate, tout de suite, quand on rentre à la mairie, c'est moins de 26, et après du coup la ligne qui suit, après logement pour gratuité totale pour les moins de 26, c'est expérimentation progressive sur les week-ends et certains jours de la semaine, et après jusqu'à arriver à la gratuité totale. Parce qu'il faut aussi en faire un état des lieux, parce que vous savez à quel point il y a un problème sur la ligne B, notamment on peut aussi remettre en question l'entreprise aujourd'hui de qui on est hyper dépendante pour un tout petit matériel qui fait sauter la ligne B à tout moment, les portiques qui ont coûté un peu dingue pour finalement certains être ouvertes. Tous ces agents, d'ailleurs, ils viennent d'être renforcés là, des agents qui sont là pour contrôler. Tout ça, c'est de l'argent en plus qui ne sera plus dépensé si on fait le transport gratuit. Et c'est aussi, comme tu disais, entre son logement indigne et son travail indigne, c'est à ouvrir la capacité de se déplacer déjà durablement, hein, de manière écologique, mais d'aller vivre dans le centre-ville, d'aller du coup... Enfin, pour les jeunes, des étudiants jusqu'à 26 ans, c'est de mémoire 25,20 € le forfait mensuel. Donc ça, c'est 25 repas à 1 euro pour les étudiants et étudiantes. Donc c'est aussi gagner en pouvoir d'achat, en vie collective, en circulation dans la ville. Donc en fait, je pense que la ville a tout à gagner à mettre le transport gratuit total. Et je crois qu'on est dans l'ère de ça. Quand on parlait tout à l'heure là, pour la commune de Paris, de tout ce qu'ils ont mis en place à ce moment-là, ça semblait sans doute révolutionnaire à l'époque. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le transport gratuit, c'est même plus révolutionnaire, c'est attendu et c'est une nécessité. Donc on va vers là, et c'est juste que, comme souvent, la France Insoumise, dans nos programmes, on parle de l'immédiateté, du 1 mois, du 6 mois, du 1 an, parce que ben voilà, un projet, ça se planifie, un projet politique, c'est sur le temps long.
Et il y a, bon, évidemment, là on a parlé transport public, mais il y a aussi la question de la place de l'automobile par rapport aux piétons, par rapport aux cyclistes. Là, on peut dire que Rennes a fait d'énormes progrès ces dernières années, et comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs, et à la faveur aussi du Covid, où les gens avaient peur de reprendre les transports en commun au lendemain des confinements. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce que LFI proposerait de plus efficace ou de plus rapide pour favoriser les transports doux, non polluants, qui préservent la santé publique, et puis peut-être aussi qui permettrait une configuration de l'espace public différente, puisque la voiture occupe quand même beaucoup de place et participe beaucoup de l'urbanisme, quoi.
C'est justement cette mesure là du transport gratuit, parce que ça favorise le fait de prendre le transport en commun. Et on a aussi dans notre programme, je l'ai regardé, je l'ai pris avec moi parce qu'il est énorme, vous voyez, on a 86 pages, plus de 72 mesures. Parce qu'on
c'est
a pensé
pardon, c'est le programme municipal.
Oui, c'est ça.
J'adorerais le lire, moi.
Il sera public cette semaine parce que le site internet va être public cette semaine.
Okay.
Et comme ça, ce sera plus facile de faire des contrôles F et chercher les sujets qui vous intéressent. Logement, transport, urbanisme, santé mentale, voilà. Donc on est vraiment sur un programme qui est dense et qui comprend plusieurs sous-mesures. Sur la question du logement, par exemple, le programme est énorme. Et en plus, on a des grands plans. Donc là, on a un grand plan zéro sans-abri à Rennes. On a un grand plan lutte contre le narcotrafic dans tout un pan qui s'appelle la sûreté. Enfin voilà, donc c'est énorme. Et du coup, sur le transport, je cherchais, parce que je voulais vous lire la phrase exactement, mais je vais la faire de tête. C'est le parc de vélos qui le rend aussi gratuit pour que les gens puissent... se circuler à vélo, prendre les transports de manière gratuite. On a la végétalisation des espaces communs pour avoir aussi beaucoup plus... Déjà, c'est une mesure très écologique et très attendue, mais pour avoir en plus envie de circuler dans la ville et prendre plaisir à ça. Et le transport gratuit, il est aussi associé à un état des lieux des parkings relais, pour voir à quel point certains sont saturés et pas d'autres. Donc pour ouvrir ou pas plus ou moins de place, pour aussi que les villes aux alentours de Rennes puissent se circuler sur ce transport-là. Et évidemment, vous savez, il y avait un vieux projet qui a été de penser à un RER rennais. Donc nous aussi, on se le réapproprie un petit peu. Et d'ailleurs, on rigolait en l'appelant le RATB pour Rennes et pas ATP que pour Paris. Mais voilà, je pense que vraiment, on a comme je vous disais, c'est l'ère politique où il faut s'approprier tout ça. Je pense que les gens sont prêts, en ont envie, et faciliter les circulations et les réseaux, c'est quelque chose qui est très important chez nous. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, on a fait un livre qui s'appelle L'ère du peuple, où il parle des réseaux, il parle du transport et de la gratuité, le fait d'être en mouvement, tous en réseau.
Et au-delà du service qui serait proposé aux habitants et aux visiteurs. Quel est le regard sur l'économie de ces transports, puisqu'aujourd'hui c'est confié à une société à but lucratif, comme c'est le cas très souvent ailleurs, mais on a aussi des systèmes de régie directe et on a aussi beaucoup d'associations à Rennes qui travaillent sur ces questions de mobilité. Je pense au vélo, mais ouais. C'est pas uniquement le vélo. Est-ce qu'on peut pas s'appuyer non plus sur des initiatives citoyennes qui sont une autre manière aussi d'impliquer les gens dans ces questions-là?
Tout à fait. D'ailleurs, nous, on l'a fait, je vous l'ai pas dit, mais ce programme, il sort pas de nulle part. On l'a fait avec intégrité... intellectuel, comme on le fait tout le temps, c'est-à-dire en discutant, en auditionnant des travailleurs, des experts, des associations, y compris d'ailleurs des associations sur le vélo, des associations sur l'accès piéton à Rennes. Donc on a, et à chaque fois, en fait, ce programme il a été construit via ces auditions-là, ces temps de réflexion. Et après, il a aussi été mis en discussion dans des tables rondes auprès d'habitants. À plusieurs reprises, je crois qu'on a fait au moins 6 tables rondes minimum, où on a échangé là-dessus. Donc il s'est enrichi de toutes ces expertises-là, des habitants qui vivent la ville au quotidien, des associations qui font un travail fabuleux pour faire des états des lieux, dire ce qui manque, penser même l'accès à ces services-là. Et donc, il est plein de tout ça. Et je ne sais plus la question initiale, mais si comment on fait évoluer, c'est ça, avec ces experts. Ah oui, les régies publiques, ouais, c'était ça la question.
Oui, il y a les régies publiques, mais comment est-ce qu'on organise un service public, donc à l'image du transport en commun, autrement qu'en déléguant sous forme de délégation de services publics à des entreprises commerciales qui font du bénéfice.
Nous, c'est très clair parce qu'on... Du coup, c'est partout dans le programme, sur la question de l'eau, sur la question du transport, voilà, c'est aussi des déchets, c'est faire une grande analyse de tout ce qui est, comment fonctionnent tous les sujets qui sont soit municipaux, soit métropolitains, et par quelles entreprises, et du coup, essayer de basculer tout, enfin, la vocation qu'on a, nous, dans la France Insoumise, dans notre programme ici, particulièrement à Rennes, en régie publique, avec vraiment des citoyens qui sont impliqués dans l'organisation même de ces régies publiques-là. Et c'est surtout, à chaque fois, quand on réfléchit qu'est-ce qui pourrait être sous régie publique, et ben on se rend compte qu'à chaque fois, ce sont des biens communs dont on parle. L'eau, c'est un bien commun, les transports,
transport, je pense aussi que c'est un bien commun. La gestion des ordures, ça nous concerne tous et tout aussi, c'est un bien commun. Et donc pour ça, les habitants ont toute leur place parce que c'est eux qui vivent tout ça au quotidien. Et donc il faut le faire de manière active avec les associations expertes, les habitants et quand même les élus aussi.
Et justement, tu parlais tout à l'heure du livre de Mélenchon, donc le dernier, je crois, Faites mieux.
Non, je parlais de l'art du peuple, mais t'as raison, il y a aussi Faites mieux qui est super.
où il insiste beaucoup justement sur le fait que le sujet collectif a changé. On a pu des masses d'ouvriers qui travaillent tous dans les mêmes usines, qui vivent dans les mêmes immeubles, dans les mêmes quartiers, etc. Donc le sujet qui se mobilise dans les mouvements sociaux ou dans les révolutions n'est plus le même. Et il dit que c'est donc l'intégration à un réseau collectif, notamment dans les villes, qui constitue le peuple et la possibilité de la mobilisation citoyenne. Ce que j'ai quand même senti à la lecture de ce livre, tu me démentiras peut-être, mais moi j'ai quand même senti une sorte de fascination pour le mode de vie urbain et le développement des villes. Et je me disais quand même qu'il y avait quelque chose d'aliénant dans ce mode de vie urbain, si on compare à la majorité de l'histoire de l'humanité, en fait, où les gens ont quand même pas été à ce point-là dépendants des autres. Donc il peut y avoir quelque chose d'émancipateur, évidemment, de libérateur, dans le fait de dépendre des autres, ça crée un sujet collectif, ça crée la possibilité de la relation. Et en même temps, on est totalement dépendant de l'économie des multinationales. Par exemple, si on compare à la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, où on a vécu, où les humains, par exemple, produisent eux-mêmes leur nourriture, produisaient eux-mêmes leurs vêtements. Donc je me doute qu'on ne va pas revenir en arrière et faire de Rennes une ville agricole où les gens produisent eux-mêmes leur nourriture. Cela dit, quel est un peu ton rapport ou les pistes de réflexion qu'il y a eu sur la possibilité de reconquérir une forme d'autonomie locale? Je ne sais pas, que ce soit par exemple des expérimentations associatives ou des jardins ouvriers ou ce genre de choses, quoi.
Il y a plein de questions dans ta question. déjà sur l'ère du peuple et Faites mieux et sur la question de la centralité des villes urbaines, c'est pas qu'il en est, je sais pas quel terme t'as.
Je parlais de fascination.
Ouais, mais... je crois pas qu'il est fasciné. Je pense qu'il, par contre, il est très intellectuellement intègre, c'est de dire qu'aujourd'hui la majorité du peuple, la majorité des Français, mais aussi la majorité du peuple vit dans des zones urbaines. Tout le monde s'est amassé parce que justement il y avait le capitalisme avait besoin de gens qui s'amassent, et d'ailleurs à une certaine époque le logement c'était pas quelque chose qui était qui rapportait de l'argent pour les capitalistes. Ils se sont rendu compte qu'en fait en créant tout ça, toute cette rareté, cette demande, ça pouvait être un gros champ du marché capital. Et donc il y a d'ailleurs énormément de livres et de bouquins d'urbanistes qui sont hyper intéressants sur la question et c'est aussi dans notre livre Le Nouveau Communalisme que je vous invite à lire, où il y a toute une réflexion sur comment on a créé l'urbain pour contrôler tout et rendre tout capitaliste, c'est-à-dire les usines, le bitume, les logements, la circulation dans la ville, etc. Donc il n'a pas une fascination, par contre il est très ancré et très, très clair sur ça, et donc il faut y répondre par les réseaux. Et en effet, t'as expliqué comment il met tous les réseaux il parle d'ailleurs du peuple en réseau, du peuple, l'ère du peuple, c'est ça. Et du coup, comment on est interdépendant à ces réseaux, le réseau de l'eau, le réseau des transports, le réseau de la télécommunication, les réseaux associatifs aussi finalement, et comment c'est comme ça qu'on se construit en tant que peuple. Et après, il a toute une réflexion. Et moi, ce qui me parle le plus dans ce que tu as dit, c'est que le peuple, comme il s'est constitué, comme il a été pensé à l'époque où la Ve République a été mise en place et aussi où on pensait nos communes, où on pensait la politique nationale, c'est pas le même peuple constitué qu'aujourd'hui. Déjà à l'époque, par exemple, les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit de travailler. Pour avoir un compte bancaire, elles devaient demander à leur mari si elles pouvaient en avoir un. Aujourd'hui, les femmes, elles font pleinement partie de la question démocratique, politique. D'ailleurs, elles revendiquent. On a aussi une ère qui est beaucoup plus féministe. Et donc, féministe veut dire aussi beaucoup plus progressiste. Voilà. Et je sais pas, ça, j'ai essayé de répondre à toutes tes questions. Je sais pas si.
La dernière question, c'était justement est-ce qu'il y a des pistes pour pouvoir avoir plus d'autonomie locale et beaucoup moins dépendre d'un marché international
Oui, bien sûr. Ça passe à la fois par les régies publiques, mais aussi par repenser. Nous, on a du coup dans notre programme tout un pan sur l'urbanisme. Qui appuie du coup sur des lectures, sur des discussions. On a un grand plan écologiste, puisqu'on a aussi la chance d'avoir sur cette liste quelqu'un qui est très très calé sur ces questions-là et qui nous a fait un programme vraiment instructif, où moi-même j'ai appris énormément de choses.
Malheureux de dire qui ?
Il s'appelle Louis Amiot. Il est sur notre liste et il est chercheur. Et il a été aussi en lien et appuyé par de nombreuses personnes qui ont voulu contribuer à notre programme. Et donc, ce grand plan écologiste, il est appuyé sur tout un tas d'objectifs et de moyens pour y arriver. Et parmi ceux-là, il y a notamment pour reprendre des terres, les mettre en bio. Il y a une cantine locale bio gratuite. Il y a repenser l'alimentation dans les cantines scolaires, la rendre gratuite aussi, la cantine scolaire. Et donc, c'est actuellement, par exemple, il y a plein de plastique. C'est aussi une personne qui est dans notre collectif qui nous a signalé que par rapport à la loi Egalim, on devrait ne plus utiliser de plastique. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, ça avait fait un peu la grande industrie avait crié dans tous les sens, non, mais on ne peut pas enlever le plastique parce que quand on fait des livraisons ou parce que on fait de la fast-food, et ben du coup, il y a du plastique. Finalement, ils ont tous bougé et ils ont changé leur matériel de cuisine et de livraison de repas. Et ben par contre, dans nos cantines scolaires, c'est toujours pas le cas, alors que les microplastiques, c'est un vrai problème dans nos aliments, et particulièrement pour nos enfants. Dès que ça concerne les enfants, moi en tout cas, ça me porte à cœur. Donc là, dans cette cantine, là, il y a justement cette vocation à être sans plastique, bio, local, repas végétarien toute la semaine en option, deux repas imposés, enfin voilà, par semaine.
Et quelle serait ta seconde proposition musicale afin que nous reprenions notre souffle?
Peut-être un peu de fun et d'actualité avec Théodora et Dicis. J'ai mis Mélodrama, c'est une musique qui me rend très de bonne humeur chaque jour, à chaque fois que je l'entends.
Allons-y, c'est mes nièces qui vont être contentes.
Végété dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime un homme pas deux. Tu ne l'as plus d'hiver. J'suis dans un étoilé mais j'repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam.
Ton bonheur de vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
Vous êtes toujours sur Canal B dans Frisson en présence de notre invité Marie Messmer. Qui a fait ce choix musical. On a fait un bond dans le temps depuis Yves Montand, et ce n'est pas pour me déplaire.
D'accord, oui.
Non, mais je te regarde, toi,
mais... C'est génial, ça met le sourire, cette musique, elle est entraînante. Et puis on parlait aussi en... entre-temps que Théodora, elle est d'ici. Donc c'est super aussi de... d'avoir, quand on écoute une artiste, de savoir qu'elle a... elle s'est baladée dans les rues de Rennes, qu'elle s'est inspirée de ce qu'on voit de Rennes, des visages de Rennes, de la culture rennaise qui est très très importante à mes yeux.
Bah, voilà. Elle était au dernier festival Métaux, je sais pas si tu y étais ou...
Non, je suis passée, mais il y avait une queue de dingue. Okay. Il y avait tellement de monde. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a une autre artiste que j'ai mis dans la liste, peut-être qu'on écoutera tout à l'heure, qui a fait les inaugurations des transmusicales aussi.
Ouais, j'y étais.
C'était bien.
Ouais, non, c'était cool.
Trop, t'as de la chance.
Tu l'as pas vu?
Non, bah non, j'ai pas pu.
Mais Astra, elle aussi, à Mythos, à Sfar Shamsi, qui sera au prochain festival Mythos,
tu vois,
en avril.
Mais j'ai très hâte, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ça me parle énormément ce qu'elle raconte, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. Pendant la musique, je veux juste faire un petit mea culpa parce que j'ai vérifié, du coup, dans le programme, j'ai ouvert le gros livre. C'est 30% de logements publics actuellement, pour répondre à la question.
Et votre objectif,
et du coup,
c'est
40%. C'est vraiment écrit noir sur blanc, visant un objectif de 40%, voilà. Donc okay. 10% de plus avec de la construction. Donc voilà, et ça, il faut rendre à César ce qui est à César, donc je fais ce mea culpa.
On voulait aussi parler un peu bassesse, c'est-à-dire les cuisines internes. Parce qu'on, évidemment, entre nous, on discute régulièrement et puis on n'est pas, nous, dans les parties, dans les discussions, dans les arrangements. Et pourtant, ça compte. Mmh. Il y a des tactiques, des stratégies pour conquérir le pouvoir à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Et donc, évidemment, je ne vais pas faire le résumé de la période incroyable qu'on vit depuis quelques années, mais il y a eu la NUPES, il y a eu le NFP. Ça se décline pas forcément à l'échelle locale, tout ça. Est-ce que LFI a fait des propositions au Parti Socialiste, aux écologistes, aux communistes, mais même aussi à Révolution Permanente? Quels sont les échanges, les débats, les discussions que vous avez eues?
En mars dernier, je suis la seule, la première, à avoir écrit un courrier officiel à tous les partis du NFP pour leur demander s'ils se revendiquaient du NFP quelle était leur vision d'un NFP à l'échelle locale, en demandant des rendez-vous pour en discuter. J'ai pu voir du coup les écologistes, Génération, le Parti communiste, le NPA. Je crois, j'ai rien oublié. Et à chaque fois, on était dans des discussions très chouettes, très sur le fond, sur notre programme, parce que nous, on avait déjà sorti une boîte à outils nationale où il y avait tout un grand, grand programme municipal. Et donc, même tout le temps, ils avaient déjà lu. Et ils disaient, on est d'accord avec vous sur le fond, pas de problème. À chaque fois, du coup, nous, on a rendu cette démarche très publique. Donc, j'ai expliqué dans la presse et sur les réseaux sociaux que je faisais, du coup, ces courriers-là. Et à chaque fois qu'on rencontrait un parti pour discuter des municipales, on en faisait une synthèse qu'on rendait publique aussi sur nos réseaux sociaux. Donc à chaque fois, elles sont plutôt positives. Si vous retournez entre le mois de mars et le mois de juin, je dirais, les synthèses sont positives. On a l'impression qu'il va y avoir un NFP. La seule chose qui s'est passée, qui ne s'est pas passé, c'est le rendez-vous avec le Parti Socialiste. Parce qu'on a eu des échanges de courriers où ils me demandaient, et ça pareil, ça a été, j'en ai parlé, où ils me demandaient donc de me revendiquer de la majorité, sauf que je ne suis pas de la majorité, j'ai pas été en mandat avec eux et je ne vais pas assumer le bilan de la majorité, ce n'est pas mon bilan. Où ils expliquaient que c'était mon parti qui avait quitté la majorité, donc c'était le Parti de Gauche à l'époque. Moi, j'ai jamais été au Parti de Gauche, je suis de la France Insoumise, et on est un jeune mouvement, on a 10 ans cette année. Donc je peux pas faire ça. Ou il y avait aussi des invectives en disant que c'était nous, les insoumis, qui tentions de casser le NFP, alors qu'en fait nous, on s'est toujours revendiqué du préambule, du programme du NFP à visée collective. Et par contre, en effet, on n'est pas d'accord quand un parti ne met pas en place le programme du NFP pour lequel il a été élu, quand on n'est pas d'accord quand un parti dit qu'il peut voter le budget de Macron ou qu'il est en accord avec les macronistes, alors que dans le préambule, il y a justement écrit « être en rupture avec la politique de misère d'Emmanuel Macron ». Donc on le dit, on fait de la politique, en fait. On fait de la politique pour changer concrètement la vie des gens, et justement, je pense que changer concrètement la vie des gens, c'est faire que Macron ne soit plus là et que son budget de misère ne puisse plus casser toutes les solidarités qui existent en France.
Et au niveau local, bon, tout le monde a bien en tête comment dire, peut-être l'écart idéologique entre le Parti Socialiste et les Insoumis au niveau national, en tout cas. Mais bon, avec Génération, par exemple, pourquoi ça n'a pas pris
Mais parce que ils étaient déjà de la majorité de Nathalie Appéré. D'ailleurs, je tiens à dire aussi que c'est la première fois en 25 ans que les écologistes ne partent pas seuls, ou enfin partent directement avec la majorité. Donc on peut se questionner sur un accord de place plutôt que politique, de fond. Moi, en tout cas, c'est une certitude pour moi que c'est une anomalie qu'il n'y ait pas d'insoumis à la ville de Rennes, puisque pour moi, Rennes est foncièrement insoumise dans sa sociologie, dans sa manière d'être, dans son envie de solidarité, de lien, de collectif, dans tout ce qu'elle est. Et
Mémoire, le LFI avait fait, je crois, entre 7 et 8% aux dernières élections
municipales. Mais c'était en 2020, plein Covid, et comme je disais, nous, on a 10 ans cette année, donc c'était une des premières élections. Là, on est beaucoup plus près, beaucoup plus massifié. On est d'ailleurs, en termes de nombre de personnes, le plus grand mouvement à Rennes, je pense. Ça se voit souvent dans nos actions. On a une vie émancipatrice, on a un travail parlementaire aussi qui permet d'informer, de diffuser la question politique, que tout le monde puisse se l'approprier, parce que souvent ça a été aussi une question de petite élite qui rendait la politique beaucoup plus complexe que ce qu'elle est réellement. Donc voilà, on est des années plus tard, des nouvelles élections où là, je suis certaine que la France insoumise sera bien présente dans les conseils.
Et donc, petite parenthèse de politique fiction que tu viens d'ouvrir. Hein. dans l'hypothèse donc, où vous faites plus de 10% au premier tour, vous vous maintenez au second. Dans l'hypothèse où c'est un peu moins, désolé, mais je veux dire, où c'est un peu moins de 10%, est-ce que vous allez discuter avec d'autres pour fusionner
Déjà, c'est une question qui me concerne pas que moi, du coup, qui concerne tout un collectif et qui concerne aussi les autres listes en question. Je crois que la politique fiction, ça, quand je vous dis que la France Insoumise n'est pas la même aux dernières élections municipales que maintenant, c'est pas de la politique fiction, c'est une réalité. Quand je dis qu'on va, voilà, donc jusqu'à aller dire ce que va être le résultat du premier tour, je garde bien certaines personnes de me dire qu'on ne fera pas plus de 10%. Vraiment. Moi, quand je fais une campagne, c'est pour gagner. Là, on est vraiment sur le terrain tous les jours. On fait des inscriptions sur les listes électorales pour que plus jamais la politique se fasse sans les habitants et les habitantes de Rennes. On a une augmentation des inscriptions sur les listes électorales, d'ailleurs. On est présent sur le terrain depuis des années.
Si je pose la question, c'est... Bon, tu rappelais tout à l'heure que c'était la première fois que les écologistes et le PS faisaient liste commune dès le premier tour. Donc effectivement, précédemment, ils fusionnaient entre les deux tours avec des scores assez proches aux précédentes élections. Enfin, je crois que c'était 34 pour la liste conduite par Appéré, et puis dans les 25 pour les écolos, c'était Mathieu Theurier, je pense, la tête de liste. En admettant que vous soyez en tête ou même second, enfin que vous faites un très bon score, que vous multipliez par 3 par exemple ou 4, avec qui vous discutez entre les deux tours, est-ce que même si évidemment c'est le fruit d'une discussion collective, j'imagine que vous anticipez déjà cette discussion collective?
Tout est sur la table. Déjà, c'est très possible qu'on soit en triangulaire, en quadriangulaire, c'est très dur à dire, c'est-à-dire 3 ou 4 partis au second tour. Et puis, moi, je ne serai jamais la responsable de la montée de la droite à Rennes ou de sa bascule, donc je prendrai aussi mes responsabilités en fonction. Mais comme je dis, tout est sur la table et rien ne doit pressentir et prévenir de ce qui va se passer au premier tour. Pour le moment, je fais campagne pour avoir le meilleur score au premier tour et ne pas forcément avoir à me poser... des questions maintenant.
Alors, dernière petite parenthèse, fiction. Admettons, allez, 51% au premier tour, bim, pas de deuxième tour. Est-ce que tu abandonnes ton mandat de député?
C'est ce que je viens de dire, je fais de la politique et de la campagne pour gagner, donc la question se posera à ce moment-là.
Ok, d'accord, bon.
Mais donc t'es pas sûr. Enfin, ça veut dire que ça pourrait être le deuxième, le maire, et que tu restes député, c'est ça? Dans tous les cas, il y aura un choix. Donc.
Non, c'est.
C'est ça. On peut pas être député et maire. Dans tous les cas, tu dois choisir.
Exactement. La loi dit qu'on peut être conseiller municipal.
Ouais.
mais qu'on peut pas être maire.
Donc et si t'es élu maire, tu renonces au poste de
d'accord.
député.
Bah, on est obligé de faire un... D'ailleurs, oui. Dans la loi, je crois qu'il y a écrit qu'on a 30 jours pour choisir.
Oui.
Voilà. Mais la question se posera au moment où je suis élu maire, du coup.
D'accord. Donc on sait pas, enfin nous bah, on sait pas encore, enfin t'es là.
Je crois que c'est assez
toi,
clair.
Toi tu sais pas non plus.
Bah si, je crois que c'est assez clair. Ouais, je crois que c'est assez clair.
Ok, bon bah revenons au programme. Il y avait une réunion publique hier sur la question de la sûreté. Vous préférez utiliser ce terme plutôt que celui de sécurité, en disant que ça contient à la fois la sécurité, c'est-à-dire le droit de ne pas être violenté ou volé, mais aussi le droit de ne pas voir l'État remettre en cause ses propres droits, sa dignité, c'est-à-dire notamment le fait de ne pas être victime de violence ou de discrimination de la part des agents de l'État. Et vous avez développé donc quelques aspects de votre programme ou ce sur quoi vous insistez pour faire régner une sorte de sûreté ou de paix publique à Rennes. Vous insistez sur la place des associations et leur rôle dans l'espace public. Vous parlez aussi de la nécessité de légaliser le cannabis pour assécher les mafias notamment. Et vous parlez de du développement d'une police de proximité et de prévention, une PPP.
3PP.
Voilà.
La 3PP. T'étais là hier soir ?
Non, j'ai regardé sur YouTube.
Ah ouais.
Voilà. Et aussi, je vous ai entendu critiquer les baisses de moyens et d'effectifs de la police nationale. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu précis ?
C'est pas tout à fait ça. J'ai taclé ceux qui aujourd'hui font campagne en disant qu'il faut plus de police nationale, qui sont du même camp que le président qui a supprimé le plus de policiers et de gendarmes. Qui a supprimé 10 000 policiers et gendarmes, c'était sous Sarkozy, et pourtant c'est son camp politique aujourd'hui qui réclame plus de police. Donc voilà, je dis, avant d'en réclamer plus ici, il faut s'assurer de ce qu'on fait au niveau national. C'est aussi les mêmes personnes qui votent les budgets d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui supprime des fonds dans les services publics, dans l'éducation, là encore 4 032 postes d'enseignants supprimés, alors que tout ça, ça a à voir aussi avec la lutte contre le narcotrafic, la criminalité organisée. Donc ils sont en train de faire campagne, de buzzer sur des sujets réactionnaires, du sentiment d'insécurité, etc., en oubliant, déjà en étant tout à fait hypocrite et de mauvaise foi par rapport à leur vote nationalement sur ces budgets-là, et aussi en oubliant tout un pan, quand ils parlent de sécurité, ils ne vous parlent jamais du droit à la ville, du droit au logement, du droit à avoir un éclairage public qui fonctionne, du droit à ne pas avoir peur de circuler dans la rue en fonction de son genre, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, etc. Ça, ils n'en parlent pas. D'ailleurs, je veux profiter à votre radio, il s'est passé quelque chose qui, pour moi, est un scandale hier à Rennes. J'en ai parlé hier, c'était pas prévu, mais j'étais... J'ai ressenti de la violence et de l'insécurité et de la violence sociale infime parce que une opération organisée par le préfet a eu lieu dans au moins 7 stations de métro de manière coordonnée avec les moyens du coup de la police nationale et des CRS où ils étaient en masse dans les rues, enfin dans les stations de métro pendant des heures et des heures à contrôler et à faire des fouilles au corps. Mais c'était à visée raciste. Parce que jamais moi, si j'avais circulé au métro, j'aurais été contrôlée. C'était une chasse aux immigrés, clairement. Et pire, ce qui je trouve qui est encore plus dramatique, c'est de la violence pour moi, je trouve ça hyper grave. C'est ce que Retailleau avait déjà mis en place en mettant 2000 fonctionnaires dans les bus, les gares et les trains pour justement faire, lui il avait dit clairement de la chasse aux immigrés, de la chasse aux sans-papiers, où notre gare d'ailleurs avait été ceinturée par les CRS. C'est hyper violent, c'est moi c'est ça qui m'insécurise. Mais là pire, le préfet il s'est mis en scène, c'est-à-dire qu'il a pris un gilet pare-balles pour aller au métro à République. Mais vous vous rendez compte un peu de où on est arrivé ? Il a mis un gilet pare-balles au métro de République que je prends tous les jours quand je ne suis pas à l'Assemblée nationale et dans lequel je me sens très très bien. Et il a mis un gilet pare-balles dans notre ville, quoi. Vous vous rendez compte un peu de où on en est ? C'est vraiment une mise en scène, un coup de communication et c'est rien d'autre que ce que fait Trump aux États-Unis avec l'ICE ou l'ICE, on le dit de manière différente. Mais voilà. Et donc j'ai réagi vivement hier et j'en ai parlé pendant la conférence parce que je trouve que c'est scandaleux et je demande, et ce que j'ai dit aussi hier, où est la gauche qui se soulève face à ces pratiques qui sont vraiment infâmes.
Et la police de proximité et de prévention tu appelles de tes voeux, quelles seraient ses missions ou la manière de se déployer ou de ses activités ?
Et bien du coup, c'est recentré sur les trois missions de la police qui sont la sûreté, la...
Excuse-moi.
C'est les trois missions de la police. C'est trois missions qui sont claires et dont qu'on oublie tout le temps. C'est la tranquillité, la sûreté et la médiation dans l'espace public. Et donc ça, si on résume, tranquillité, sûreté, médiation, c'est de la prévention. Et c'est du lien social, du lien de la relation. Donc c'est recentré sur ces missions-là. Parce qu'on voit de plus en plus l'État qui... faute de moyens, demande à la police municipale de venir sur des missions régaliennes, c'est-à-dire d'intervenir dans du délit et du crime. Ce n'est pas du tout les missions de la police municipale. D'ailleurs, il y a des villes qui s'en passent bien de police municipale, comme à Brest par exemple, ils n'en ont pas, et ils disent c'est à l'État d'assurer le service commun et le même service pour tous ces citoyens et ces citoyennes de la police nationale. Bon, nous, on a la police municipale, nous on veut l'appeler la 3P du coup, police de proximité et de prévention, pour ramener justement cette proximité, ce lien et tous ces aspects sur la prévention qui, à mon avis, serviraient à la fois aux habitants et aux habitantes et aux policiers eux-mêmes dans le travail de confiance qu'on peut faire tous ensemble.
Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est à ça que tu te réfères, est-ce qu'il y a le rapport au bilan critique qu'on peut avoir sur la dernière expérience de police de proximité dans l'histoire. Donc c'était sous la gauche plurielle à la fin des années 90, et c'est quelque chose qui a été supprimé ensuite par Sarkozy, mais il y a quand même des sociologues qui ont travaillé sur le sujet et qui en ont produit une critique. Je pense notamment à Mathieu Rigouste, qui en fait, lui, insistait sur le fait que c'était donc la suite de l'îlotage, donc la manière dont la police a commencé à s'intégrer dans d'autres activités dans les années 80. Par exemple, à mettre son nez dans le fonctionnement des bailleurs sociaux. Et ce qu'il disait, c'était que la police de proximité n'avait pas fait baisser les violences policières et les discriminations. C'est qu'en fait, c'était à intégrer dans d'autres activités et qu'elle avait parfois remplacé des formes de travail social. Elle avait mis son nez dans les activités des CCAS, dans les activités des bailleurs sociaux. Elle avait parfois organisé des actions d'aide aux devoirs, etc. Évidemment, pas par bonté d'âme ou pas parce que la police aurait fait uniquement un travail social à ce moment-là. C'était à des fins de renseignement. Et cette activité-là a permis d'avoir un renseignement, d'alimenter les comparutions immédiates, par exemple, de jeunes qui venaient au service d'aide aux devoirs et qui se retrouvaient en procès parce qu'ils avaient parlé devant un flic du fait qu'ils avaient fumé du cannabis. Ça a servi aussi à identifier les jeunes qui avaient participé aux révoltes urbaines. Et aussi un effet pervers de ça, c'était quand, mettant la police dans d'autres activités sociales, ça faisait que ces activités-là pouvaient être désertées par des personnes, par exemple des personnes sans papier. Si l'organisation de l'aide aux devoirs est faite en lien avec la police, ou si la police se met dans des actions sociales en lien avec la vie du quartier, avec l'association, etc., ça fait que des personnes osent pas venir, quoi. Et par exemple, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les réflexions qu'il y a en ce moment au sein de la gauche américaine, qui sont, il me semble, plutôt l'inverse, qui sont de dire on va vraiment circonscrire l'action de la police sur la lutte contre le crime violent, et pour les autres actions sociales, en fait, pour le lien entre les gens, etc., on s'adresse à des soignants et des travailleurs sociaux.
Bien sûr que la police ne doit pas venir sur les missions éducatives de prévention et de protection. D'ailleurs, je dis en passant, mais je suis éducatrice spécialisée, moi, de formation. Donc, évidemment que j'ai toute cette critique-là et que je sais à quel point la prévention, l'éducation, la protection sont essentielles pour donc les services publics, en fait, dans notre société et donc les éducateurs. À l'époque, d'ailleurs, où j'ai passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée, il y avait encore des éducateurs de rue dont tout le monde connaissait le prénom et qui faisaient le lien et le relationnel dans les quartiers. D'ailleurs, ils intervenaient même dans les conflits intrafamiliaux et dans les violences intrafamiliales, les vifs. Et d'ailleurs, juste, je fais une petite aparté, quand ils parlent de sécurité, les réactionnaires, la droite, et quand ils essayent d'en faire un sujet médiatique et politique à visée électorale, ils parlent jamais des violences intrafamiliales, alors que c'est justement une des violences qui est la plus répandue et la plus marquante, en fait, dans nos familles. Mais du coup, tu nous parlais de ce sociologue, moi j'ai envie de aussi parler à un autre sociologue qui s'appelle Fabien Jobard, qui est à lire en même temps que Laurent Bonelli ou que Sébastien Rocher, qui lui a parlé de la violence de la police de manière générale sur les discriminations, etc. Mais donc Fabien Jobard, il explique comment la société délègue une mission d'autorité à la police, du coup, à une force qui est la police, mais qui, du coup, a les missions qu'on lui donne. Et donc la police municipale, elle est le reflet de l'autorité qui en est responsable. Imaginez-moi maire, avec la police municipale, avec des orientations de prévention, parce qu'on ne peut pas faire comme si aujourd'hui il n'y avait pas un problème sur les questions en effet de criminalité organisée à Rennes, de narcotrafic, de fusillades, d'enfants qui sont embarqués dans ces réseaux-là et même qui génèrent d'autres formes de violence, c'est-à-dire marché d'armes, prostitution, etc. de jeunes femmes ou errance de jeunes mineurs. Et ben, évidemment qu'il y a un problème. Alors la première des choses, c'est les éducateurs de rue, c'est des services publics, des associations qui fonctionnent, mais il ne doit pas non plus être, elles, les associations, ou ces réseaux-là, ils ne doivent pas être un palliatif du désengagement de l'État. L'État doit reprendre son rôle et la ville, elle doit aussi penser le commun et le vivre ensemble. Donc, elle doit être au service des habitants et des habitantes. Et je pense aujourd'hui que les habitants et les habitantes, ils ont besoin de liens, de proximité, de confiance. Et pas de mettre un pognon de dingue dans des caméras vidéosurveillance, par exemple, qui ne règlent pas les infractions et qui n'empêchent pas le crime d'arriver. Donc, c'est un plan sur deux jambes.
Petite pause musicale.
Faisons ça.
Merci.
On parlait d'Asfar Chamsi, c'est ça ?
Oh ouais, oui. Carrément. On va rester un peu dans un registre fun et chouette. Et féminin. Et féminin, c'est important.
Je mets des phases B dans ma chambre, comme si c'était planète rap. Même les murs, ils en avaient marre. Mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur, j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil, j'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. Je suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. Je suis sincère, je suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, let's go. Je suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, je ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.
Arrive David de Trezeguet. Sur le ballon, David, oh c'est là-bas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est là-bas.
Moi j'aime bien.
C'est déjà, on parlait foot là.
Foot. Oui oui.
Même
oui.
Si... Ah, oui.
Mince, on a raté notre reprise, dis donc. Toujours sur Canal B, toujours dans Frisson, toujours un petit peu à l'arrache. Je parlais football avec Marie Mesmer. Je confessais que je n'y connaissais absolument rien.
Oui, parce que t'entends dire que tu parlais football, ça m'étonnait aussi.
Ben oui, je me souviens de Zidane et Platini, par exemple.
Ouais, bah, c'est bon, c'est bon.
C'est bien, okay.
Les deux existent.
Bravo.
On te laisse désannoncer le morceau, Marie.
On fait un autre morceau maintenant ?
Non, désannoncer le morceau, si tu en parles.
Ah, jargon radiophonique.
Raconter pourquoi je l'ai choisi, c'est
oui,
ça ?
Oui, si, okay. Si t'as envie.
Parce que Asfar, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que je me vois dans sa musique. Quand elle parle de 2006, d'ailleurs, dans son clip, on voit toute une population en train de regarder dans un bar type PMU le match. Et ben, en fait, je me revois à l'époque, c'était un moment marquant pour moi. On a aussi tous été déçus sur le penalty, donc c'est la chanson, c'est en 2006. assiste, elle a pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, elle a d'autres formes de problématiques. Et moi aussi, je me revois la jeune fille que j'étais en 2006. Enfin, forcément, ça me parle, ça me projette. À un moment, elle dit « Rendez-moi la France de Mélanie ». Et j'avais hésité d'ailleurs à vous mettre en chanson « Ma France à moi » de Diams. En fait, Mélanie, c'est la référence à Diams. Et « Ma France à moi », moi, c'est toujours celle que Diams raconte dans ce morceau à l'époque. Et du coup, enfin, je suis d'accord avec ce qu'elle raconte. Elle est très entraînante, cette musique, très joyeuse. En même temps, elle dit aussi que... Ben, elle a d'autres formes de problématiques, que la vie n'est pas vraiment tout le temps douce, mais qu'elle garde la tête haute, qu'elle sourit, qu'elle lutte en fait pour ce qui elle est, pour son identité. Et aussi, du coup, deux choses, c'est qu'elle a fait l'inauguration des trans musicales à Rennes, donc elle était à Rennes il n'y a pas si longtemps.
C'est un festival d'artistes transgenres, c'est ça?
je vais bien en parler après, mais quelle stupidité! Anti-culture et anti-personne. Voilà. Et puis, elle fait partie du collectif de Youssef Swat, qui est un rappeur qui a gagné la Nouvelle École et qui a, du coup, mis sur le devant de la scène, qui a promu, qui a diffusé des sons de personnes qui avaient... Bah, en fait, c'est dur à percer la musique, notamment dans le rap, notamment quand on est une jeune femme. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes autour aussi de Youssef Swat. Et elle, du coup, je l'ai découverte à son Planète Rap. Et j'ai trouvé ça génial. Et voilà. Et je trouve que c'est un super collectif et que ça fait... Je vous assure, quand on est une femme, jeune femme, qu'on aime le rap, ça fait du bien de voir toute cette fraîcheur des Théodora, des Asphar, Diams à l'époque. Moi, elle était structurante dans ma vie, quoi. J'étais à ses concerts quand j'étais ado, j'étais trop contente et je regrette aussi qu'elle soit plus sur la scène musicale, mais on a ces artistes-là qui racontent plein de choses, qui se battent, qui luttent, qui nous rendent fiers en tant que femmes, quoi. Et donc, c'est, je suis très contente d'avoir écouté cette musique ce soir et d'avoir pu la mettre.
Ouais. Bah, merci.
Et c'était grâce à une association. Canal B en est une. Et justement, je voulais attaquer moi la question de la relation aux associations. Donc elles sont
super transition.
Très ouais. Je suis un peu funambule là.
Digne de Claire Chazal.
Non, mais c'est important parce que bon, à titre d'exemple, Canal B est une association et il y a donc une convention d'objectifs avec la ville. Appelons ça un contrat de partenariat, comme la plupart des associations culturelles ou non, hein, d'ailleurs. Et ce qu'on observe, pas spécifiquement à Rennes, mais en France, c'est une énorme tendance à l'instrumentalisation des associations, c'est-à-dire que là où la subvention vient accompagner justement un partenariat, elle est de plus en plus remplacée par des appels à projets, ce qui signifie mise en concurrence entre les associations, ce qui signifie aussi que ce n'est pas durable, hein, c'est à chaque fois un one shot sur un projet qu'on remporte ou non, mais quand c'est pas carrément des DSP, des
délégations de services publics.
Voilà, et donc forcément, bah, ça prive les initiatives citoyennes que représentent les assos de leur liberté de penser des projets et d'aller négocier après avec la ville, mais d'ailleurs les autres collectivités territoriales aussi. Donc il y a une dérive de ce point de vue-là. Rennes fait peut-être figure d'exception dans le sens où il y a quand même une politique associative dense et beaucoup d'associations accompagnées. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lutter contre cette instrumentalisation? Qu'est-ce que vous imaginez en termes de critères aussi, de critères d'accompagnement ou non?
C'est un vaste sujet, en effet. D'ailleurs, ça a commencé beaucoup dans le service public, hein, les appels à projets. Il y en a maintenant pour la recherche. Il y a même un appel à projets dans les universités pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça veut dire qu'il faut être une université pour répondre, pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles et avoir un budget pour ça. Ce qui est quand même scandaleux et qui met en effet des universités en concurrence les unes contre les autres pour ce genre de sujet. Il y a des appels à projets en protection de l'enfance pour ouvrir des foyers pour mineurs, des centres, des équipes mobiles, etc. Et à chaque fois, donc, moi, en tout cas, dans tous les champs de professionnel dans lequel j'ai été et associatif, à chaque fois il y avait cette critique là de l'appel à projet qui gestionnarise énormément le travail. D'ailleurs les chercheurs ils disent que par exemple pour répondre à un appel à projet ils investissent tellement de temps de réflexion que finalement le coût bénéfice est nul parce qu'ils investissent au moins 1,5 fois ce qu'ils vont gagner après pour le projet si jamais ils le gagnent, et que le nombre de candidatures est tellement énorme qu'en fait il n'y a qu'une toute petite partie qui vont réussir à avoir le projet, l'argent, et que du coup finalement c'est un déficit total pour l'État, et sur des sujets des fois qui sont essentiels comme la protection de l'enfance, comme la recherche, comme l'écologie, comme les violences sexistes et sexuelles, et comme tous les champs d'intervention généralement des associations. Donc il y a ça, et il y a du coup ça profite toujours aux grosses structures, hein. En protection de l'enfance par exemple on le voit, c'est toujours les grosses structures qui bénéficient des appels à projets, jamais les petites et jamais les choses qui sont les plus créatives, qui veulent faire de l'innovation, qui veulent repenser, enfin, voilà. Et en plus il y a aussi à ça s'ajoute le contrat d'engagement républicain, je ne sais pas si vous avez suivi,
tout à fait.
Qui du coup est un outil de contrôle politique aussi des associations et de leur intervention. Moi à Rennes par exemple il y a des gens qui sont venus me signaler, des associations, que parce que un membre de leur conseil d'administration avait été vu en manif contre l'extrême droite pendant les législatives en 2024, et bah du coup ils avaient eu un chantage à la subvention au titre du contrat d'engagement républicain. Sauf qu'un individu il est toujours libre de faire ce qu'il veut. Encore plus de manifester, c'est un droit.
Une association aussi.
Et une association aussi, par ailleurs. Donc voilà, ça c'est un outil de contrôle idéologique et politique qui s'ajoute. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est fort, qui est intense sur nos libertés fondamentales en fait, plus largement que simplement sur nos associations. C'est pour tout, les services publics, les associations. Et donc il faut à la fois traiter le sujet politiquement, donc y répondre. Donc c'est ce qu'on fait en parlant ce soir, c'est ce qu'on fait en publicisant ce qui se passe, l'instrumentalisation du contrat d'engagement républicain, et en luttant politiquement à l'Assemblée nationale avec mon groupe politique contre tous ces outils de contrôle et de répression et de visée de conformité idéologique. Et puis, on soutient aussi des associations qui, elles, par exemple, ont décidé de ne pas du tout demander de subvention à l'État pour justement être indépendante totalement et ne pas être sous cette coercition-là. Donc, je prends un exemple qu'on connaît beaucoup à Rennes, c'est Utopia 56. Utopia 56 est totalement indépendant pour pouvoir se permettre d'être libre sur son action, sur son plaidoyer politique aussi, parce que s'ils font de la politique quand ils luttent pour des personnes sans-abri, quand ils luttent pour le droit des personnes réfugiées. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas déjà une forme de censure économique, c'est-à-dire que une association est de fait indépendante, elle peut prétendre à être subventionnée par la ville ou par l'État en conservant son indépendance, et donc finalement on préfère ne plus demander de subvention pour la conserver, cette indépendance. Est-ce que c'est pas forme de censure économique?
Eux c'est pas ne plus, ils ont toujours pensé leur projet comme ça. Et c'est aussi une forme de liberté, moi je crois, et donc ils préfèrent avoir du soutien citoyen et être. Et je pense que ça dépend vraiment de comment on pense son association, quelle est la nature aussi de l'association. Souvent, d'ailleurs, quand il s'agit de lutte politique, ben c'est plus complexe.
J'entends, mais admettons voilà. Que toutes les associations culturelles et artistiques, par exemple, décident de ne plus demander de subvention à l'État pour conserver leur indépendance. Bon, ça fait une super économie pour l'État, il n'y a plus besoin de ministère de la Culture, et finalement...
Non, mais moi, je veux pas qu'on aille vers là. Je respecte, par contre, toutes les formes d'association, de penser ça, et d'être dans le moment politique dans lequel on vit, dans le constat qu'on vient de se faire sur les appels à projets et le contrat d'engagement républicain. Et comment on peut, du coup... c'était ça, la fin de la question, c'est comment on peut... réagir politiquement, localement et nationalement à ça. Moi, je crois qu'il y a un outil, enfin, il y a même deux. Nous, dans notre programme, c'est un fil conducteur, c'est l'intervention populaire permanente, c'est-à-dire intégrer des citoyens et des personnes concernées dans toutes les étapes de décision, notamment pour la culture. Aujourd'hui, on a rencontré, nous, beaucoup de personnes de la culture, il y en a même qui sont sur notre liste parce qu'ils ont des choses à revendiquer et c'est génial.
Qui ?
Non, des collectifs qui sont très intéressants en lutte et qui ont plein de choses à raconter. Voilà, et qui nous disait qu'il y avait très peu de transparence sur justement le comment les artistes avaient leurs subventions, comment ils étaient choisis et pourquoi eux. Et donc on était étonnés, en fait les artistes ils sont pas concertés, Il n'y a pas dans cette réunion qui donne ces subventions-là, il n'y a pas de personnes de la culture. Voilà. Donc c'est, et pour les associations, c'est, moi je crois que là, ce que j'aimerais bien, et je pense que vous aimeriez bien aussi, c'est un document qui me dit exactement quelle association a eu combien de la ville ou de la préfecture, pourquoi, et que les gens puissent y intervenir.
Alors bon, ça existe quand même. Enfin, je pense que
moi, je veux bien voir un document très clair là-dessus.
Oui, oui. Bah, alors, il y a deux choses. Il y a les comment dire, les documents de la chambre régionale et territoriale des comptes qui dit des choses. Et il y en a un précisément sur la politique culturelle à Rennes. Donc, il n'est sorti que l'année dernière, mais avec des chiffres de 2022. Donc, ils ont besoin de temps quand même pour mouliner tout ça, les malheureux.
Non, mais la ville, elle sait très bien combien elle donne et à qui elle donne.
Oui, oui.
Mais la DILCRA, par exemple, elle sait très bien à qui elle donne et pourquoi elle donne. Moi, j'ai demandé pourquoi l'association ISKIS avait perdu tous ses fonds, là, à la DILCRA, à la préfecture. Alors, j'ai pas eu de réponse.
Ce qui est certain, c'est que dans ce même rapport de la Chambre régionale des comptes, il est dit que... Enfin, c'est une des premières recommandations, c'est qu'il manquerait un règlement général des critères d'attribution. Donc, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. On peut décider d'attribuer des subventions à condition de respecter, je ne sais pas moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, à condition de respecter en cas de salariat dans les associations, par exemple, une forme d'équité salariale, etc. Et visiblement, d'après la Chambre régionale des comptes, c'est un manque aujourd'hui. Mais si demain... tu avais à écrire avec ta future équipe municipale un règlement. Ce serait quoi les valeurs sur lesquelles tu t'appuierais pour attribuer ou refuser des subventions à des associations ?
Ben, c'est ce que vous venez de dire, hein. C'est toutes ces valeurs progressistes d'égalité, de... Voilà. C'est d'ailleurs exactement la nature de la discussion qu'on a pu avoir avec le collectif de culture dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est, il disait, mais pourquoi on ne conditionne pas en fait nos chartes, les subventions, à des formations égalité, à des formations lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, je ne me souviens plus, mais il rajoutait une lettre. Ah oui, c'est H. Nous, on dit les VSS, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et eux, ils disaient les VHSS, violences et harcèlement sexistes et sexuels. Et donc, ça, c'était la première fois que j'entendais. Et donc, ça a été une longue discussion parce qu'il me disait que la culture, nos milieux associatifs, et moi, ça ne me surprend pas parce que j'y réfléchis beaucoup, ils ne sont pas exemples de tous ces rapports de domination-là, de violence sur les corps, sur les esprits, dans le travail salarial également. Et donc, il n'y a pas du tout pour moi de non-sujet à cette problématique. Et toute cette charte-là, elle peut revenir sur cette égalité-là, et ces luttes-là, et cette prévention.
À toi, Vivian. Oui, tu fais signe discrètement. Désolé, je te grille.
Oui, c'est arrivé même tout à l'heure qu'on attend au barrière en se faisant des signes l'un l'autre. Non, moi, j'aimerais bien parler de la... Du fait que là, il est fort probable quand même que la France Insoumise ait beaucoup plus d'élus locaux après les municipales qu'avant.
À Rennes ou en France ?
Ah, nationalement, je pense.
Partout.
Ouais, nationalement. Parce que
dans le monde. C'est...
Vous pouvez faire que mieux de toute façon.
Oui.
Vu le petit
nombre. En fait, on a 10 ans, donc on n'a jamais réfléchi une stratégie politique municipale avant. On est d'ailleurs un parti qui s'est construit autour d'élus nationaux. Donc là, on assume et on oriente notre action sur la question municipale pour aussi une première fois. On en a sorti un bouquin l'Institut Labossi qui est passionnant et qui invite à faire ce que la politique a de plus beau, c'est penser notre vie commune. Et voilà, et on assume tout à fait une stratégie. Donc on est présent dans énormément de villes, je crois que c'est... Enfin, le chiffre est énorme, donc c'est sûr, tu as raison, Vivien, on aura beaucoup de plus dans ce délit insoumis locaux qu'auparavant.
Et donc, ma question a visé à questionner le rapport des élus aux autres militants, à la vie militante locale, et aussi savoir comment vous regardez, par exemple, les autres partis et leur évolution, notamment à l'aune de la place qu'avaient leurs élus. Je m'explique, en fait, les deux grands partis qui ont pendant longtemps structuré la vie politique française, donc le Parti Socialiste d'une part et d'autre part, donc les Républicains et anciennement l'UMP et le RPR, avaient des espèces de barons locaux, c'était souvent un vocabulaire féodal qui était utilisé quoi, par les médias, on parlait de fief, etc. Et c'était en fait des gens qui souvent cumulaient un mandat d'élu local, deux députés, qui étaient souvent chefs de leur parti localement, qui pouvaient être cadres nationalement, et ce qui quand même change beaucoup de choses dans la vie militante locale, et qui se retrouvaient en fait à avoir un parti à leur service, et un parti politique qui devenait une sorte de machine électorale ou de club de supporters pour servir la carrière de tel ou tel notable. Et tu disais toi-même que donc tu pourrais être à la fois député et conseillère municipale si t'étais pas élu maire, donc savoir le regard que t'as un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois les élus évidemment ont un salaire qui est nettement supérieur à celui de la majorité de la population et aussi ont évidemment plus de pouvoir,
pas
ont des gens à leur service, etc.
Enfin, les conseillers municipaux, non.
Le salaire d'une maire, par exemple, c'est 6 000 euros brut, je crois.
Mais je parle des
ton salaire en tant que député, c'est 7 000 euros brut, je crois.
Brut, je sais pas exactement parce qu'en fait, nous, tu sais, enfin, moi, pour être tout à fait transparente, je crois que c'est 1 200 euros par mois d'impôts. Du coup, c'est pas ce qui arrive sur mon compte, oui. C'est même pas le brut. Et puis après, on participe à la vie de notre mouvement. Mmh. Donc, on fait des donations à notre mouvement pour pouvoir du coup recruter, payer des travailleurs et des travailleuses. Et aussi, on fait des dons à des associations parce qu'on est foncièrement de gauche. Et enfin voilà. Après, du coup, pour dire si
c'est ça.
Si cette... Faut pas faire trop la promotion parce qu'après, je vais pas pouvoir.
Ça reste entre nous.
Mais donc, il y a deux choses que je veux dire à cette critique qui peut être régulière. Mais si le montant de l'enveloppe des députés a été pensé comme ça, c'est pour qu'ils ne puissent pas être corrompus. C'est pour qu'ils aient... Que personne ne puisse aller les acheter sur leur voix, sur leurs actes politiques, et c'est qu'ils puissent se consacrer.
Ça a bien marché, tu penses?
Je sais pas, parce que quand tu vois le salaire des élus européens, quelle est la limite, du coup, par exemple. Je sais pas, en tout cas, je pense que c'est aussi une question d'intégrité personnelle. Moi, en tout cas, c'est clair que là, je vis tout à fait bien avec beaucoup plus, avec plus qu'un SMIC, et du coup, j'ai aussi ma colonne vertébrale politique qui fait que je risque pas d'être corrompue du tout, je pense. Donc voilà, et c'est fait aussi pour ne pas avoir à s'empêcher de faire de la politique en fonction des conditions matérielles d'existence, pour que des élus qui soient des héritiers, comme souvent c'est le cas à droite par exemple, n'aient pas plus de facilité matérielle pour faire de la politique que des élus qui ne sont pas du tout des héritiers, mais qui sont par exemple issus du monde ouvrier ou étudiant, comme c'était mon cas moi, et qui accèdent de manière égale à ce mandat. Nous, on pense pas, du coup, vu qu'à par exemple à la France Insoumise, on n'est pas des héritiers du tout. Nous, la politique, c'est pas un loisir, c'est pas un jeu. On y va vraiment, sincèrement, pour changer la vie des gens. Et le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, un mandat, il n'est pas pensé pour pouvoir être fait en même temps qu'une condition salariale. Et au contraire, en fait, c'est plutôt le travail empêche de pouvoir penser à se projeter dans un mandat politique. Donc, il y a ça, ne pas être corrompu, et il y a pouvoir faire de la politique sans avoir à se préoccuper des conditions de matériel d'existence. Sinon, la politique, ce serait qu'une politique d'héritier et d'héritière. Et du coup, nous, on est contre ça.
Oui, après, il faut aussi que les élus aient pas trop d'intérêt à s'accrocher à leur poste, et aussi qu'il y ait peut-être, je sais pas, des mandats tournants, ou que ce soit pas toujours les mêmes personnes qui cumulent les mandats pour pas, en fait, avoir un parti à leur service.
C'est pour ça qu'on est pour la révocation des élus, par le peuple et pour le peuple au bout de 2 ans de mandat, de la moitié du mandat. Donc généralement c'est 2 ans et demi, parce que justement un élu ne doit pas être, il doit y avoir des contre-pouvoirs. Des garde-fous, qu'un élu ne soit pas accroché à son siège. Et je ne sais pas si c'est pas aussi en dehors de la question matérielle, c'est la question symbolique aussi. En dehors de l'argent, c'est aussi ce truc de se dire je suis élu de la République. Des fois, on peut s'enorgueillir beaucoup. Et d'ailleurs, on voit un rapport à ça qui est très différent en fonction de quel parti on vient. Et aussi, moi par exemple, quand on pense à un député, on ne pense pas à une fille de 30 ans qui était éducatrice spécialisée ou étudiante même juste avant d'être élue. Donc on a un rapport à la politique, à cette fonction d'élu de la République qui est différent. Et certains ne se posent pas du tout la question de leur légitimité et d'autres s'y interrogent en permanence.
Moi, je propose une dernière virgule musicale avant de conclure.
Une dernière, alors il y a le choix entre Georges Moustaki ou Médine, laquelle vous préférez?
Moi je propose Le Havre.
Le Havre?
Ouais, Médine, oui. Médine. En tant que Havrais.
L'amour.
On aurait pu mixer Georges Médine, mais j'ai pas eu le temps.
Fait, donc Médine, alors l'amour, il s'appelle le titre.
Si je shoot un bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire le haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs, les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeute. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait la N2, ce serait la cité de la peur. Nos vies des films d'horreur quand on les regarde en gros plan. En dézoomant des films d'amour et des bromances, j'ai vu mon reflet dans leurs insignes. J'ai su que le vilain petit canard était un signe. C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain, face aux gendarmes, ça peut vite tourner au drame. Parce que quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un Arabe joue au con, on dit que c'est un sale Arabe. Et lorsqu'un flic tue un noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un noir pousse un keuf, ils parlent tous d'animal féroce, d'indigène, hanté en Lacoste. Qui volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Frère, faut qu'on tempère. Tourner le dos à l'ouragan ne nous sauvera pas de la tempête. Tant qu'on ne videra pas nos placards de nos squelettes. Tant qu'au lieu de mener des enquêtes, on partira mener des quêtes. Je prendrai pas de pincettes, encore moins de pense-bêtes. On ne guérit pas du Tiex, même sous opération place nette. Tant qu'on ne renversera pas la pyramide, tant qu'on ne regarde la banlieue que par la lucarne des vrilles. Tant qu'ils enjamberont les corps avec des dossiers sous le bras. Tant qu'on aura des nœuds au ventre quand on voit l'origine du coupable. Tant qu'on étalera le casier d'un cadavre encore chaud. Tant qu'on n'arrêtera pas de voir comme un spectacle les talk shows. Tant qu'il y aura des mères qui ferment le couvercle du cercueil. Tant qu'il y aura des pères en deuil qui perdent un œil dans les immeubles à cause d'un tir-erreur, d'un bon tireur sur un ancien tirailleur. Un militaire devenu ferrailleur, devenu de la chair à bailleur. Tant qu'ils s'en prendront au raisonneur avant de s'en prendre au raisonnement. On n'ouvre pas la porte du vivre ensemble avec une clé d'étranglement. On n'est pas le pays des lumières avec un taser électrique et cassé du fonctionnaire. Et ben ça n'a rien d'érectile. On perd le nord, on perd le fil. On crée pas de lien, on racialise. On se voit plus qu'en noir et blanc comme dans le film de Kassovitz. On nage en pleine cassosserie. Comment expliquer aux kids que la patte patrouille dans la vraie vie tire sur la carrosserie? C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale. L'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. J'ai mis la culture de la rue dans la France et son pactage. Car pour pouvoir former la lune, faut que tous les quartiers se rejoignent. On chanterait presque la Marseillaise avec Jul, avec Ayam. Le bruit des copes de supporters, ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine quand elle chante avec Ayam. On est les gardiens de la paix quand ils shootent les canaques. Quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama. Que sans les images des dashcam, on ne saurait rien des causes du drame. Alors on se fout de leur morale, des humanistes à deux balles. On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Et que le chef de police est sûrement un chef de famille. Et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre qu'oublier. Un crime est un crime, de bel drama où c'est qu'il. On va tous finir par ce qu'il. Alors j'ai plus qu'une chose à dire, l'amour.
alors que Frisson s'achève tout doucement sur cette petite mélodie mélancolique au synthé. J'ai cru que c'était Eric Serra à la fin, tellement c'était mélancolique et synthétique. En compagnie de Marie Mesmer, je viens de critiquer vertement ton choix musical, mais à toi de le défendre.
Je peux juste que défendre et l'artiste qui fédère par ses mots, son esprit, ses luttes, son grand travail pour la fraternité et qui a accompagné moi mes luttes depuis des années. Et aussi ce que j'ai hésité sur plein de musiques paratonnerre que j'adore, qui du coup est aussi symbolique de la personne, hein, qui est un paratonnerre et qui prend énormément de coups de l'extrême droite pour faire de la bataille idéologique et intellectuelle pour la fraternité et les communs. Ou Gaza Soccer Beach ou Voltaire, enfin tout un tas de musiques que j'aime beaucoup et qui m'ont accompagnée et qui m'ont aussi politisée. Et cette musique-là, qui en fait est magnifique et qui raconte tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre société, voire donc qui parle à la fois des violences policières, de la montée des discriminations, de l'islamophobie, la montée la tentative d'insuffler de la haine de l'autre, l'absence de la casse de tout ce qui fait nos communs, donc nos solidarités, tout ce qui a été pensé par le Conseil national de la résistance par exemple, et qui dit à ça et à tous ceux qui veulent créer de la haine, nous diviser et casser ce que c'est le peuple français dans tout ce qu'il est, dans toute sa diversité, je réponds l'amour, donc la fraternité. Et voilà, c'est très puissant, très beau. Quand ils chantent cette musique, il y a souvent beaucoup de jeunes, notamment issus des quartiers populaires, parce qu'il fait aussi, ils parlent de leur légitimité, et c'est aussi eux qui sont attaqués dans leur identité par l'extrême droite généralement. Donc cette musique est magnifique et elle est un grand symbole de lutte et de puissance pour moi.
Tu l'as brièvement mentionné, l'engagement de Médine pour la Palestine, c'est aussi ton cas. On te voit très fréquemment dans les rassemblements depuis plus de 2 ans contre le génocide à Gaza. Tu as aussi participé à la flottille qui, à la fin de l'été dernier, a tenté de rompre le blocus de Gaza. Tu as été incarcéré pendant plusieurs jours par Israël suite à cela. Quel serait un programme municipal ou une action municipale de soutien à la Palestine? Et je pose la question notamment parce qu'on a quand même 2 entreprises à Rennes qui participent directement au génocide des Palestiniens. Je pense à Safran qui fabrique des drones et qui a reçu une subvention ou un financement de la mairie. Et je pense à Thales qui fabrique des drones et qui a des partenariats avec l'Université de Rennes et des liens avec Rennes Métropole.
Tout à fait. Et tu as rappelé mon engagement, il débute pas au 7 octobre, j'étais déjà engagée pour la cause palestinienne avant et j'étais déjà dans les manifestations avant. La situation elle est critique actuellement, donc elle nécessite un rassemblement minimum par semaine, c'est ce qui se passe. La situation de colonisation en Palestine, de violence sur le peuple palestinien, elle précède le 7 octobre. Et donc, à ce titre-là, je suis en effet très engagée dans les collectifs de solidarité avec la Palestine et aussi dans les collectifs de boycott d'entreprises qui financent directement ou indirectement le fait d'assassiner en masse tout un peuple, des enfants. Et voilà. Donc, évidemment, une politique municipale, elle a aussi à voir sur ces questions-là, parce que je refuse qu'un enfant naisse ici, vive ici, en disant, en pensant qu'on peut en massacrer d'autres ailleurs. Ça, c'est une question humaine fondamentale, et de fraternité. La fraternité, elle se pense pas à l'échelle des frontières. Donc, nous, on a 10 garanties programmatiques, un programme simplifié de 10 mesures, plus une. La dernière, c'est Rennes internationaliste pour la paix et contre le fascisme. Et donc, c'est notamment des choses qui sont pour moi, qui sont simples et qui sont symboliques. C'est de mettre le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, ce que j'ai demandé d'ailleurs à la maire Nathalie Appéré par courrier, puis après, alors que j'étais sur la flottille, et qui, eux, n'ont mis que 4 heures sur la mairie, le jour de la reconnaissance de l'État de Palestine, qui est une pseudo-reconnaissance, parce qu'en fait, on ne reconnaît ni des droits, ni une nation à la Palestine, et qu'on continue de laisser faire un génocide. Donc moi, c'est crier haut et fort ma solidarité, organiser un jumelage, je trouvais plus mon mot, entre Rennes et une ville palestinienne, mais aussi des camps de réfugiés pour mettre la protection et notre regard, nous, Rennais, sur ces camps-là et affirmer que jamais on ne cessera d'être humain en solidarité avec avec la Palestine, mais c'est aussi tous les peuples qui sont colonisés et qui risquent un génocide. Donc on a pour ça tout un programme que je vous invite, vu que c'est bientôt la fin, à aller consulter sur notre site internet
ou
alors à discuter sur les marchés en porte à porte, parce qu'on est tous les soirs, tous les jours en marché, à la sortie des écoles, devant les métros et en porte à porte le soir. Donc on pourra en discuter avec plaisir, ou au prochain rassemblement de l'association France-Palestine Solidarité qui a lieu tous les samedis à République à 15h.
Et bien justement, tu me donnes l'occasion d'annoncer les autres rendez-vous. Donc c'est tous les samedis à 15h. Aussi, il y aura une manifestation Marche au flambeau le mercredi 11 février. Le rendez-vous est au Triangle. Et aussi, le 24 février, le lieu sera annoncé donc sur rennespalestine.fr ou sur les réseaux sociaux de Rennes Palestine. On recevra un objecteur de conscience israélien qui a passé 6 mois en prison en Israël pour avoir refusé de faire l'armée et avoir dénoncé le génocide à Gaza.
Super. Est-ce que je peux me permettre un dernier commentaire ?
On a 10 secondes, vas-y.
Et ben, parce que c'est aussi ça l'intégrité, c'est qu'il y a des personnes très engagées dans la cause palestinienne qui sont sur notre liste. Et donc, voter au municipal, c'est aussi soutenir d'une certaine manière des voix libres qui vont défendre la Palestine.
Merci Marie,
merci,
on rend l'antenne, on est à l'arrache.
Merci à tous les trois.
Salut.